VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 31 octobre 2019, en direct de Washington, Jean-Roger Billon.
Et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Guinée-Bissau, la communauté internationale juge illégal le décret mettant fin au gouvernement du premier ministre sortant, Aristide Gomesh.
Côte d'Ivoire, l'opposition accuse le gouvernement de cabale contre l'ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale.
Burundi, l'émissaire de l'ONU quitte ses fonctions en espérant des élections transparentes.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants à majorité démocrate vote aujourd'hui sur la suite de la procédure de destitution lancée il y a un mois contre le président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vage, a essuyé hier de nouveaux désaveux de la communauté internationale pour avoir démis le gouvernement censé préparer la présidentielle du 24 novembre. Le point avec Abdourahmane Dia.
L'ONU et l'Union africaine ont affirmé leur attachement au processus fixé en juin par la CEDEAO pour mettre fin à des mois de crise dans ce pays. L'Union africaine a apporté son soutien total à la position exprimée mardi par la CEDEAO qui avait déclaré illégal le décret mettant fin au gouvernement d'Aristide Gomes. La CEDEAO avait chargé le gouvernement dirigé par Aristide Gomes de préparer la présidentielle. C'est ce gouvernement que le président a congédié lundi soir. Le président José Mario Vaz a nommé Faustino Imbali nouveau chef de gouvernement, mais M. Gomes refuse de se soumettre. Le pays se retrouve de fait avec deux premiers ministres. Le mandat de M. Vaz a lui-même expiré en juin, mais la CEDEAO a accepté qu'il reste à son poste jusqu'à la présidentielle du 24 novembre. La campagne doit s'ouvrir officiellement samedi. Le président Vaz a assuré mardi que la présidentielle aurait bien lieu le 24 novembre.
Le Front populaire ivoirien, le parti fondé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a protesté hier contre ce qu'il a appelé la honteuse immixtion du gouvernement ivoirien dans la procédure à la Cour pénale internationale contre M. Gbagbo. Le point avec Bagassi Koura.
C'est une honteuse immixtion du gouvernement ivoirien dans la procédure, a affirmé Assou Ahadou, secrétaire général du FPI, au nom de son parti et de la coalition d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Par ses agissements, le RDR et le président Alassane Ouattara viennent de faire tomber le masque derrière lequel ils n'ont eu cesse de manipuler la procédure. Le procès n'est rien d'autre qu'une cabale politique pour écarter un adversaire à un an de la prochaine élection présidentielle, a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse. Par ailleurs, Assou Ahadou a confirmé que la justice ivoirienne a maintenu mardi la condamnation à 20 ans de prison de Laurent Gbagbo dans l'attente de la décision de la CPI après l'appel de la procureure Fatou Ben Souda. M. Gbagbo réside à Bruxelles. Ses avocats ont déposé une requête pour demander sa libération totale. L'État de Côte d'Ivoire a déposé le 25 octobre une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sans condition de Laurent Gbagbo, acquitté en première instance.
Au Niger, le ministère de la Défense a déclaré hier que 12 soldats nigériens ont été tués et 8 blessés dans la région de Difa lors de l'attaque de la base militaire de Blabrine dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un communiqué du ministère, la base a été attaquée par des éléments armés non encore identifiés, appartenant très probablement au groupe terroriste Boko Haram.
L'émissaire spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando, a annoncé qu'il a espéré hier devant le Conseil de sécurité que les élections générales burundaises de 2020 seraient transparentes en annonçant qu'il quittait ses fonctions entamées il y a 2 ans. La situation au Burundi demeure tendue. Ce pays a connu une montée de l'intolérance politique et des atteintes aux libertés civiques et politiques, a relevé l'émissaire.
Au sujet des scrutins attendus en mai 2020, il a indiqué espérer que ce processus sera transparent. Parmi les points positifs constatés dans l'évolution du Burundi, Michel Kafando a noté que la situation sécuritaire s'était améliorée et que le gouvernement avait mis en place un cadre de dialogue politique. Mais le dialogue inter-burundais sous les auspices de la communauté d'Afrique de l'Est n'a toujours pas eu lieu. 4 ans après son lancement, a-t-il regretté. L'émissaire a aussi déploré une détérioration continue de la situation socio-économique économique. Il a enfin informé le Conseil de sécurité qu'il quittait ses fonctions. L'ancien diplomate burkinabé, qui a assuré la présidence par intérim de son pays en 2014-2015, a précisé en avoir fait part dès juin au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
En Afrique du Sud, une centaine d'étrangers protestant contre la xénophobie et qui occupaient un immeuble de bureau au Cap ont été remis en liberté après leur interpellation mercredi. Les étrangers, pour la plupart originaires d'autres pays africains, ont demandé à l'ONU de les transférer vers un autre pays, affirmant ne plus se sentir en sécurité en Afrique du Sud après une recrudescence des attaques xénophobes dans le mois de septembre.
Au Mozambique, la RENAMO, le principal parti d'opposition, a déposé hier un recours en justice pour contester les résultats des élections générales du 15 octobre remportées par le Frelimo au pouvoir. L'ex-mouvement rebelle avait déjà demandé l'annulation de ces élections qu'elle juge frauduleuses. Le président Philippe Nyusi du Frelimo a été réélu avec 73% des voix contre 22% à son principal opposant, Ossoufo Momad de la RENAMO, selon la Commission nationale électorale.
Facebook a démantelé une opération de désinformation dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun, menée à partir de la Russie par le réseau d'un proche du président Vladimir Poutine. Les détails avec Arzuma Koupaori.
Les comptes, pages et groupes concernés, présents sur Facebook mais aussi sur Instagram, étaient liés à des entités associées à un proche du président russe. Il avait déjà été accusé d'avoir animé la campagne contre Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Monsieur Prigogine finance aussi le groupe Wagner, une entreprise de sécurité qui déploie des mercenaires en Afrique. L'annonce de la suppression de ses comptes vient quelques jours après un sommet Russie-Afrique à Sotchi. Outre la Côte d'Ivoire, la RDC, la Centrafrique, le Cameroun, Madagascar, le Mozambique, le Soudan et la Libye étaient également visés, a précisé le réseau social. Au total, Facebook a éliminé 35 comptes, 53 pages, 7 groupes et 5 comptes Instagram. En Centrafrique, un réseau de pages Facebook opéré de Madagascar saluait la présence russe dans le pays. En Libye, le soutien allait à deux personnalités, le maréchal Khalifa Haftar et l'un des fils de Muammar Kadhafi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, l'armée américaine a dévoilé hier des images et vidéos de son opération commando en Syrie, opération qui a abouti à la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, et de 5 autres membres du groupe djihadiste et de 2 jeunes enfants. Lors d'une conférence de presse, le Pentagone a diffusé plusieurs photos et extraits de vidéos où l'on voit notamment une dizaine de soldats approcher, dans la nuit de samedi à dimanche, de l'enceinte du complexe où était caché le chef djihadistes dans un village du nord-ouest de la Syrie.
La Chambre des représentants aux mains des démocrates doit se prononcer aujourd'hui sur une résolution qui donne un cadre formel aux investigations et autorise l'organisation d'auditions publiques après 5 semaines d'interrogatoires à huis clos. Eric Manirakiza.
Grâce à ce texte, les Américains vont pouvoir entendre en direct comment le président abusait de ses pouvoirs, a tweeté la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Outre l'organisation d'auditions publiques, la résolution prévoit d'autoriser les républicains à convoquer leurs propres témoins lors de la phase d'enquête supervisée par la commission du renseignement. Le texte prévoit ensuite le transfert des preuves à la commission judiciaire qui sera chargée de rédiger les articles de mise en accusation du président. À ce stade, la participation du président et de ses avocats sera autorisée selon une copie du texte. La défense de Donald Trump pourra ainsi demander de nouveaux témoignages ou des documents, procéder à des contre-interrogatoires et soumettre des objections. Mais si le président refuse de coopérer aux enquêtes du Congrès, ces demandes pourront être refusées. Pour déterminer si Donald Trump a utilisé les moyens de l'État et abusé de son pouvoir à des fins personnelles pour faire pression sur Kiev, les démocrates ont déjà entendu une douzaine de diplomates et conseillers de la Maison-Blanche derrière les portes closes de la Chambre. Selon l'intervention d'un lanceur d'alerte, le président républicain avait demandé à son homologue ukrainien de se pencher sur son rival démocrate Joe Biden et les affaires de son fils Hunter en Ukraine. Monsieur Biden étant bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020.
En Irak, les tractations se sont intensifiées hier au sujet du sort du Premier ministre Adel Abdel Mahdi, dont les manifestants exigent le départ. Ce mouvement de contestation inédit a été marqué par des violences qui ont fait plus de 250 morts. Alors que des milliers d'Irakiens étaient rassemblés dans la nuit sur la place Tahrir à Bagdad, malgré les tirs de grenades lacrymogènes, une roquette s'est abattue dans la zone verte proche, à proximité de l'ambassade des États-Unis, tuant un soldat irakien et en blessant trois autres, selon des sources de sécurité.
Fin de ce journal, vous suivez la voix de l'Amérique. Et maintenant, la Minute Éco, Nanit Talani.
Le premier fabricant égyptien de smartphones, Sico, commencera à exporter ses appareils vers l'Allemagne le mois prochain. Sico, qui vend déjà dans le Golfe, veut commercialiser ses produits en Europe et en Afrique pour étendre son marché. Son usine d'Assiout en Haute-Égypte a une capacité de production de 2 millions d'appareils par an. Sico exporte actuellement environ 25% de sa production. Il ambitionne d'exporter 50% de ses produits d'ici la fin de l'année prochaine. L'Ouganda ordonne aux opérateurs de télécommunications présents sur son sol de s'inscrire à la bourse locale. Ces sociétés, qui appartiennent presque tous à des étrangers, ont 2 ans pour inscrire au moins 20% de leurs actions. Certaines entreprises craignent que la bourse locale ne soit pas en mesure d'absorber un nombre important d'actions aussi rapidement. MTN Ouganda indique qu'il préférerait vendre une participation directement à un fonds de pension local pour répondre aux demandes de propriété locale plutôt que de devoir lister des actions. Pour terminer, la société singapourienne Olam a conclu des accords avec le Conseil du café cacao afin d'exporter 100 000 tonnes de cacao durant la campagne 2020-2021. Les contrats intègrent le différentiel de revenus décent de $400 par tonne, fixé conjointement par le Ghana et la Côte d'Ivoire et destiné à améliorer les conditions de vie des producteurs. La société possède 2 usines de pointe à San Pedro et à Abidjan pour transformer le cacao.
Place à la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Guernot Rohr et le Nigeria furieux contre la CAF.
Oui, le sélectionneur du Nigeria est outré par la programmation rapprochée des 2 prochains matchs des Super Eagles qui affrontent le Bénin le 13 novembre puis le Lesotho le 17 en éliminatoire de la CAN 2021. La CAF demande aux joueurs d'évoluer dans des conditions impossibles. La programmation les soumet à des risques de blessures, a déclaré le technicien franco-allemand qui craint de ne pas pouvoir récupérer ses joueurs à temps pour le premier match et redoute des blessures. Le Nigeria n'est pas le premier pays à contester les dates du premier match des éliminatoires de la CAN 2021. L'Afrique du Sud a aussi décrié et obtenu un réaménagement de son calendrier, ce que la CAF a refusé au Sénégal.
Samuel Eto'o parle de son futur.
L'ancien international camerounais, récemment retraité des pelouses, voudrait entraîner plus tard, excluant pour le moment en tout cas une entrée sur la scène politique. On écoute Samuel Eto'o.
Je suis quelqu'un de défi et je suis un amoureux du football. Je sais que mon prochain défi, ça serait de gagner comme entraîneur comme je l'ai fait en tant que joueur. Mais j'aimerais le faire dans ce continent, en Europe, puis un jour retourner en Afrique et puis essayer de gagner là-bas. Tout le monde me souhaite une carrière en politique, mais je vais vous dire, nous n'allons pas avoir 10 millions de Weah, mais celle-là, elle ne m'intéresse pas pour le moment.
Le Mali a choisi le Qatar pour se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans.
Sur le sol qatari, les Aiglons vont peaufiner leur stratégie avec pour objectif principal d'intégrer les 3 meilleures équipes de la compétition qui va se dérouler en Égypte du 8 au 22 novembre prochain. Fanieri Diarra, coach du Mali.
En étant sur le podium au niveau de la phase finale, nous donnons l'opportunité encore de nous qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. C'est un objectif global. Nous allons là-bas en Égypte, c'est pour être sur le podium. Toutes les équipes se valent. Chacun a mérité de se qualifier. Donc, chacun a sa chance. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la poule du pays organisateur. Peut-être quelque part, avec certains, ça peut poser des problèmes. Mais moi, je pense que nous partons à chance égale sur le terrain. Même si, au point de vue des éléments dont on souhaitait avoir, on ne les a pas tous. Mais je pense qu'avec ce qu'on a, nous allons nous battre quand même.
Fanieri Diarra, coach du Mali au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Basketball pour finir, quelques résultats de matchs de NBA joués la nuit dernière.
Oui, Indiana a battu les Nets de Brooklyn 118 à 108. Houston a disposé de Washington 159-158. Les Clippers de Los Angeles se sont inclinés face à Utah Jazz 96-110. Portland a défait Oklahoma 102-55. Charlotte a remporté le gain de la rencontre devant Sacramento 118-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, les violations des droits fondamentaux ont augmenté de 10% dans le mois de septembre. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il dit avoir documenté 77 exécutions extrajudiciaires, dont au moins 29 commises par des agents de l'État. Parmi les victimes, 6 femmes et 3 enfants, Eddie Sango a joint le nouveau vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, Paul Nsapou.
L'Afrique doit s'attendre à un travail intensifié pour éradiquer la culture de la dictature et des violations des droits de l'homme. Pour la RDC, c'est pour mettre au devant de la scène la situation qui prévaut dans ce pays en matière de droits de l'homme. Et avec mon élection, ma modeste personne, ce travail, je le sens comme étant celui de la reconnaissance du travail que nous abattons, nous, défenseurs des droits de l'homme. À travers cette vice-présidence, je mettrai le focus sur la RDC pour lutter contre les violations, les crimes et violences, par exemple, perpétrées sur les femmes et les populations civiles en général.
Le Bureau de droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport dans lequel il fait état de l'augmentation de 10% des crimes et violations des droits de l'homme au mois de septembre passé. Plus de 500 crimes qui ne sont pas commis seulement par les milices et autres groupes armés, mais aussi par ceux qui sont chargés d'ordre de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Et d'ailleurs, chaque jour, des gens meurent à Kinshasa, même la capitale, par des balles des policiers.
Quand vous prenez, par exemple, les partis, les territoires de l'Est, etc., c'est là où augmenté le banditisme. Nous disons que la situation a sensiblement diminué depuis l'élection de M. Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Mais nous attendons plus que ça. Nous attendons surtout les réformes qui s'imposent dans le domaine sécuritaire tel que les institutions, l'armée, la police, y compris aussi la justice. Voilà pourquoi nous exhortons les institutions de vite opérer toutes ces réformes pour assainir l'environnement et l'espace sécuritaire et même l'espace démocratique dans ce pays, puisque les mêmes personnes qui géraient l'armée sont encore là. Il faudrait absolument que les réformes interviennent pour changer les fonctions ou les responsables de ces services importants qui peuvent contribuer à la protection des personnes et de leurs biens.
Serait-ce dès cela que vous pourriez parler avec le président de la République puisqu'il vient à Paris, d'après ce que nous avons appris, du 13 au 14 novembre?
Nous allons solliciter une audience avec lui dans le cadre du suivi et de la promotion de notre feuille de route contenant 48 recommandations regroupées en 5 priorités, à même de contribuer à la promotion et à la protection, j'ai dit encore, des droits de l'homme à RDC. Nous allons parler aussi avec lui d'autres problèmes liés, par exemple, au processus de mise en place de certaines structures importantes telles que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, des facilitations de retour des exilés et des réfugiés politiques.
Paul Nsapou, nouveau vice-président de la FIDH.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Cela fait 5 ans déjà que Blaise Compaoré a quitté la présidence du FASO pour s'exiler en Côte d'Ivoire après 27 ans au pouvoir. La mobilisation populaire de 2014 avait abouti à la mise à sac de l'Assemblée nationale pour bloquer une modification de la Constitution qui aurait permis à M. Compaoré de briguer un autre mandat. Qu'en est-il des nombreuses attentes suscitées par son départ? Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou l'analyste politique Siaka Koulibaly.
La gestion du pays à ce stade démontre une situation plutôt difficile du point de vue de la sécurité, du point de vue du front social également. Les syndicats ont beaucoup de revendications, il y a beaucoup de conflits du travail. Donc il y a au niveau populaire une espèce de désenchantement par rapport à l'espoir qui avait été formulé au départ de Blaise Compaoré du pouvoir en 2014. Si bien que dans une partie de la population, il y a une sorte de magnanimité vis-à-vis de Blaise Compaoré. élaborés. Il y a des sondages qui ont été organisés notamment par le CGB, le Présimètre, où une forte majorité de plus de 68% estimait que Blaise Compaoré pouvait revenir même sans procédure judiciaire.
L'ancien président garde donc une certaine influence dans le pays et certains font remarquer que sous son régime, le Burkina ne connaissait pas toutes ces attaques terroristes dans le Nord.
Peut-être qu'on ne peut pas tout à fait parler d'influence pour le moment, dans la mesure où le parti qu'il avait créé, le CDP, n'est pas majoritaire au Parlement, ne détient pas les rênes du pouvoir, mais suscite beaucoup d'espoir pour les prochaines élections en 2020. Donc Blaise Compaoré est plutôt favorablement compris maintenant par la population. Donc c'est une tendance de l'opinion qui n'est pas encore traduite dans les faits politiques ou dans les institutions. Donc il faudrait attendre que son parti fasse une performance électorale en 2020, notamment au niveau législatif, pour qu'il puisse avoir l'influence et éventuellement revenir au pays et jouer certainement un rôle d'appui aux institutions du pays.
5 ans après le départ de Blaise Compaoré, les victimes des violences ayant marqué son départ attendent toujours que justice leur soit rendue. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau?
Il est difficile pour quelqu'un de l'extérieur du système judiciaire de répondre à la question. Parce qu'on le sait, ce sont des faits qui semblent assez évidents, qui relèveraient même d'une certaine part de la flagrante délit. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête indépendante qui a été commanditée et qui a déjà déposé ses conclusions. Donc, les juges d'instruction disposent même d'assez d'éléments pour au moins commencer les auditions afin de pouvoir planifier un procès dans le temps. Mais jusque-là, on se rend compte que ça ne semble pas être dans l'agenda. Donc on se demande toujours, est-ce qu'il n'y a pas d'influence de politique là-dessus? Puisqu'on le sait, l'insurrection est revendiquée par une frange qu'on appelle les insurgés, dont beaucoup figurent parmi les partis au pouvoir, les institutions, le gouvernement, etc. Ce qui fait que ouvrir ce procès va peut-être réduire l'influence politique de beaucoup de personnes. Peut-être que les choses peuvent s'expliquer par ça.
L'analyste politique Siaka Koulibaly joint à Ouagadougou.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les groupes armés continuent de mener des attaques meurtrières dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso. Ces terroristes opèrent à travers la région du Sahel qui échappe de plus en plus aux armées nationales et autres missions présentes. Qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel? La décision de l'UMOA d'envoyer des troupes dans les pays les plus touchés aidera-t-elle à renverser les rapports de force sur le terrain? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Après Abidjan et plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire, le Magic Tour est à Bouaké. Cette caravane est une initiative du groupe ivoirien Magic System et de l'Union européenne. Elle vise à sensibiliser les populations sur les thématiques de l'égalité des genres, la migration ou encore la protection de l'environnement. Photographie sonore avec notre correspondant à Bouaké, Sériki Barou.
Rencontres avec les populations, conférences, activités sportives et concerts géants, ce n'est là qu'un aperçu des activités de l'étape de Bouaké de l'UE Magic Tour. Une tournée qui va sillonner au total 17 localités du pays. Traoré Salif, dit Asselfo, est le lead vocal du groupe Magic System.
C'est la première fois que nous allons passer 5 jours d'affilée dans une ville en Côte d'Ivoire. C'est dire l'importance que nous accordons à cette population de Bouaké. On l'attend pour échanger avec elle, pour discuter avec elle. Ce qui est une priorité pour notre caravane, c'est les rencontres pour parler d'éducation, parler d'environnement, parler d'immigration avec les jeunes, parler d'emploi, parler de tout ce qui peut nous aider à contribuer au développement de notre pays.
À travers l'UE Magic Tour, l'Union européenne veut améliorer la perception des populations quant à ses actions et sa présence en Côte d'Ivoire. Laurent Dessus a réaffirmé la volonté de l'Union européenne à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement.
Ce qu'on veut montrer, c'est que toutes ces actions de développement que nous finançons, elles sont inspirées par les valeurs qui sont celles de l'Union européenne et qui sont aussi celles de la Côte d'Ivoire.
L'étape de l'UE Magic Tour de Bouaké prendra fin le samedi 2 novembre prochain avec un concert auquel prendra part une dizaine d'artistes nationaux et internationaux. Cap sera ensuite mis sur la ville de Tanda, à l'est de la Côte d'Ivoire. Sériki Barou, Bouaké, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Ici, aux États-Unis, la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, doit voter aujourd'hui en séance plénière pour formaliser son enquête sur une éventuelle procédure d'impeachment ou de mise en accusation contre le président Donald Trump. La Maison-Blanche a dénoncé une arnaque. Idriss Fall a recueilli la réaction de Maître Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie.
C'est une question de politique, pure et simple, à mon avis. Ils voulaient le foutre à la porte depuis son élection.
Ils accusent le président quand même d'avoir une sorte de chantage avec le président de l'Ukraine pour demander une enquête sur Joe Biden et son fils.
Évidemment, tu vois Biden, son fils, un fils qui est complètement incompétent, mais qui a des contrats de 100 000 de dollars, rien n'a changé. On peut dire chantage, mais c'est politique. Hein. Rien de nouveau.
On a souvent dit quand même que le président des États-Unis ne peut pas solliciter une aide étrangère pour enquêter sur un Américain.
Je me demande, à travers toutes ces années avec les petits pays à gauche et à droite qui veulent l'assistance économique et nous, on veut autre chose. À mon avis, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, pas du tout. C'est pas grave, à mon avis.
Et vous pensez que si la Chambre vote la mise en accusation, ça va aller nulle part?
Puisque les républicains seront certainement contre. Même il y a des démocrates qui pensent que c'est du blablabla et ça ne vaut pas vraiment un vrai procès. Mise en accusation, empêchement, on est accusé, c'est tout. Après, il y a un procès. Si on réussit avec la mise en accusation.
Et le procès n'a aucune chance d'aboutir, selon vous? Parce qu'il faut les deux tiers des sénateurs, et le Sénat qui est dominé par les républicains.
À mon avis, faible, très 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 faible. Et je pense également que la plupart des Américains en marrent vraiment. On a marre de ceux qui font ces démocrates. Depuis toujours, ils voulaient le foutre à la porte. Il ne peut rien faire de bon dans leurs yeux.
Et tout ceci arrive moins d'un an avant les élections.
Oui, ah oui, c'est vachement intéressant. C'est l'embarras pour les démocrates. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose de tout à fait normal depuis toujours. Il y a une espèce de business. Hein. Je vous donne de quoi vous défendre et nous, on a besoin de ceci, cela. Dans l'histoire de l'Amérique, c'est normal, oui, certainement.
Et dans l'histoire de l'Amérique, est-ce qu'il est arrivé qu'un président soit destitué après une mise en accusation? Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis.
Jamais, selon ce que je sais.
Même Nixon, il a démissionné avant...
Exactement.
Maître Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Alderson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon, dans la capitale américaine. Bonne journée à tous, à l'écoute de VOA Afrique.